et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu 102.2. Alors aujourd'hui, nous recevons Pascal et Jacques. Bonjour.
Bonjour.
D'Acrimed. Donc on va parler, on est dans un média et on va parler médias et critiques des médias. Donc Acrimed qui veut dire action, critique, médias.
C'est ça.
Observatoire des médias. Donc on va commencer, vous allez nous présenter Acrimed un peu, donc les origines, ses objectifs, qui compose l'association, parce que je suppose que c'est une association, et puis ses activités et modes d'action.
D'accord, avec plaisir, d'accord, merci de nous avoir invités, c'est fait toujours un plaisir de venir sur votre antenne. Alors Acrimed, effectivement c'est un nom un peu bizarre, on dirait un nom de médicament, ça veut dire Action Critique Média, voilà, donc c'est une association loi 1901 qui s'est constituée précisément le 29 mars 1996, dans la continuité du mouvement de novembre-décembre 1995 contre le plan Juppé. Voilà, alors pendant ce mouvement de grève important, qui était quand même les grèves les plus importantes depuis 68 en France, dont on aimerait voir aujourd'hui à peu près les mêmes choses dans les rues. Alors il se trouve qu'il y a eu un petit groupe de gens qui se sont dit que il suffisait pas simplement de faire grève aujourd'hui pour se faire entendre, encore faut-il passer dans les médias, que le grand public soit informé non seulement du mouvement qui est en cours, de sa force, de sa puissance, mais aussi de ses motifs, de ce qui fait que les gens décident de faire grève, de descendre dans la rue, de manifester leur mécontentement. Et à cette occasion, comme ensuite aux occasions futures, celles qu'on a vues au moment du traité de constitution européenne ou d'autres, il y a à peu près toujours le même scénario qui se passe du point de vue des médias, c'est que vous avez un premier round, on va dire, de discussion de la loi. Alors là, les grandes éditorialistes de la presse parisienne s'étaient gargarisées pour dire que le plan Juppé de réforme de la sécurité sociale était vraiment très très courageux, c'était vraiment très très responsable, etc. Et qu'il était, à contrario, évidemment, complètement irresponsable de ne pas considérer l'intérêt pour la société française de cette réforme. Or, évidemment, ça n'a pas marché comme ça. Et donc, ça, ce sont des situations où ça met quand même en évidence l'écart très très fort qu'il peut y avoir entre ce qui se passe dans la société, ce qui se dit dans la société, la façon dont les gens pensent, réagissent, etc. Avec ce qui se dit dans cette sphère tout à fait particulière, qui est quelques centaines d'individus, au fond, hein, si on regarde, qui sont ceux qui commentent avec autorité ce qui se passe dans la société et qui, fort de leur pouvoir et de leur strapontin auprès du grand public, peuvent dire un certain nombre de choses qui sont souvent très très contraires à ce qui se dit dans le public, ce qui est vécu chez les gens. Donc il y a un écart très très fort. Et donc, comme il y en a marre, il y en avait marre à ce moment-là, mais il y en a encore marre aujourd'hui, évidemment.
Mais je pense qu'on y reviendra sur le traitement des mouvements sociaux
clair,
actuels, que ce soit la SNCF, les universités...
Tout à fait. Alors, donc, comme il y avait la réaction à l'intérieur du mouvement, donc, il y a un certain nombre en novembre-décembre 95, donc, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, pour une fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer quelque chose qui puisse mettre en évidence la façon dont les médias traitent, évidemment très très mal, de façon très partielle et très partiale, les mouvements sociaux. Et donc, à l'intérieur à ce moment-là, à l'intérieur de ce groupe manifestant, il y avait quelques-uns qui s'étaient reconnus autour d'un appel, alors ça fait partie de l'histoire d'Acrimed, attention, c'est sérieux, c'est sacré, appel pour une action démocratique sur le terrain des médias. Et donc c'était un appel qui avait circulé parmi les... Et donc, je vais citer la première phrase parce que finalement c'est quelque chose d'historique mais qui parle encore aujourd'hui. Ils avaient dit dans cet appel: le mouvement social de novembre-décembre 1995 a donné lieu à des tentatives intolérables d'étouffer la voix des acteurs sociaux en affectant de leur donner la parole, de dénaturer leurs aspirations, d'effacer leurs propositions en les soumettant au verdict des prétendus experts. Alors dans cette formule, beaucoup de choses sont dites sur ce qu'est notre association qui s'est constituée donc à ce moment-là, avec l'idée qu'il fallait installer durablement dans le paysage et que ça soit accessible au grand public une critique des médias, parce que les médias, en tout cas les médias dominants, ceux qu'on appelle les médias mainstream, l'élite aussi, ceux qu'on appelle les éditorialistes ou éditocrates, il y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas bien longtemps qui s'appelait Édicotocrates 1, et puis un deuxième exemplaire qui sort de ces derniers jours là dans les librairies éditoriales, et les Édicotocrates 2, ben on, tout ce bon monde prend la parole la plupart du temps pour défendre soit le plan du gouvernement, enfin en tout cas prendre des positions là où il serait ou en tout cas ils débordent de leur mission, puisque la mission d'information, ça consiste pas à prendre la parole pour justifier la politique du gouvernement, pour appuyer les éléments de langage qui ne cessent de nous asséner, etc. Donc effectivement, l'idée était de réagir, de faire un observatoire, c'est ça ce qu'il y a un peu dans le sous-titre que tu as cité, Lydie, un observatoire de la critique des médias. Donc ensuite, comme il y a eu Internet, ça s'est un petit peu installé sur Internet, et aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle évidemment Acrimed, et on peut trouver un ensemble de critiques qui sont faites sur de l'actualité, de la façon de son traiter différents sujets, dont en particulier les questions sociales, le mouvement social en particulier. Là, je pense à un des derniers articles qui a été publié il y a quelques jours là sur le mouvement étudiant, et qui analyse une interview qu'il y a entre qui passe sur LCP entre Jean-Pierre Elkabbach et un président d'université. Et donc il faut écouter, il faut entendre ce que peuvent dire ces gens d'un mouvement social étudiant, la façon dont ils décrivent Tolbiac, mais c'est une aberration absolue, quoi. C'est des propos outranciers, ils disent que c'est un petit groupe de gauchistes, etc., qui tient l'université, qu'ils en profitent pour passer de la drogue, pour avoir des activités sexuelles, etc. Enfin, on croit rêver. Il y a une telle hargne contre les mouvements sociaux qu'effectivement, il y a quand même matière, je termine avec ça, matière pour alimenter, on peut dire, une critique des médias quand même à peu près permanente sur ce qui est dit régulièrement à propos des mouvements sociaux.
D'ailleurs, il faut souligner que le site d'Acrimed est particulièrement riche, en plus avec une information très structurée, il y a beaucoup de thématiques, je ne les ai plus en tête, mais... Et d'ailleurs, ces articles, c'est des adhérents d'Acrimed ou c'est des articles qui peuvent arriver d'ailleurs? Comment ils sont choisis pour être mis sur le site? Est-ce qu'il y a une méthodologie ou une déontologie de la critique aussi qui est faite?
Alors, sur la déontologie, j'y reviendrai peut-être à la fin, mais la façon dont travaille Acrimed, c'est assez simple. En fait, c'est une association nationale, donc il y a des adhérents à peu près dans toute la France. C'est les adhérents qui proposent des articles qui paraissent sur le site d'Acrimed, plus de temps en temps, quelques textes extérieurs en partie sur le mode d'une tribune, par exemple. Alors quand c'est une tribune, ça veut dire que les personnes d'Acrimed, enfin en tout cas la rédaction, parce que c'est un peu aussi comme ça qu'on fonctionne, la rédaction nationale a trouvé intéressant la publication de tel ou tel article et demande à son auteur s'il est possible de le faire passer sur le site. À ce moment-là, c'est une tribune, c'est un article qui appartient à son auteur, qui n'engage pas Acrimed, mais qui a jugé assez intéressant pour être publié. Ensuite, il y a aussi c'est un truc un peu original, mais dont on entend très très peu parler dans les médias, parce que finalement, les grands médias sont très très verrouillés lorsqu'il s'agit de parler d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est le passage des communiqués de presse des organisations syndicales de journalistes. Alors ça fait depuis le début, depuis l'origine. Et alors c'est intéressant parce que ça montre plusieurs choses. D'abord, ça montre qu'à l'intérieur du monde des médias, même dans le monde des médias mainstream, les chaînes de télévision publiques ou privées de grande diffusion, les radios à diffusion nationale, la presse, on pourrait dire le Monde, enfin la presse un peu, la presse écrite dominante, le Monde, le Figaro et Libération, etc. Et ben ça montre que dans ces grands médias, même s'il y a un effet très très fort d'imposition, de logique économique, de choix qui s'inscrivent par exemple dans les choix aussi simples que le choix des sujets qu'on va traiter, la façon dont on va les traiter, la façon dont on va les hiérarchiser, et ben vous avez quand même à l'intérieur de cette formidable machine à produire du discours, et ben vous avez des gens qui résistent à l'intérieur, des journalistes qui sont pas contents avec les évolutions auxquelles ils assistent, qui sont rebelles, on va dire, un petit peu, avec qui voilà, alors y a des cas, on pourrait illustrer ça de beaucoup de choses, mais il y a par exemple, au moment où il y avait la nuit le mouvement de la nuit debout, il y a un petit mouvement qui s'est constitué chez les journalistes atterrés là, qui ont commencé à exister, qui ont publié un ouvrage depuis, et où ils relataient un certain nombre de choses qu'ils vivent dans leur activité professionnelle, les choses qu'on leur demande de faire, qui sont quand même très 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 contraires à l'idée qu'ils se font de ce que c'est que faire du journalisme, de leur déontologie, etc. Le problème, c'est qu'il y a quand même une chape de plomb très très forte dans cet univers, parce que dès que vous critiquez l'univers, vous pouvez être assez vite rejeté. Il y a une peur, il y a une tension, hein, comme dans tous les univers professionnels d'ailleurs aujourd'hui. Hein, c'est pas ce qui se passe dans le monde des médias, à fond, c'est aussi ce qu'on peut retrouver sous d'autres formes, mais l'hôpital, dans d'autres secteurs publics, ou même dans le secteur privé. C'est-à-dire le fait qu'il y a quand même un musellement, on y reviendra peut-être tout à l'heure peut-être sur la question du secret des affaires, mais il y a quand même un musellement très très fort de la critique en interne.
Mais c'est même des fois inconscient d'ailleurs.
Oui, absolument.
Ça veut dire qu'il y aurait de l'autocensure?
Oui. Ah oui, bien sûr.
Dû à la pression de l'environnement, du contexte social, de l'organisation même. En fait, moi, je voulais revenir sur ce que tu avais dit là depuis 95. En fait, les maîtres mots qu'on retrouve maintenant aujourd'hui ou qu'on pourrait utiliser pour qualifier l'organisation finalement de la circulation de l'information et des médias, c'est une sphère assez réduite où on retrouve toujours à peu près les mêmes. Les grands médias, radio, télévision et puis presse nationale, experts, donc l'utilisation de l'expert, du même expert qui va aller, de deux, trois experts par sujet qui vont effectivement être invités sur toutes les grandes radios et sur tous les grands médias.
Et puis, comme neutre,
tout à fait. Et les éléments de langage, c'est-à-dire l'utilisation d'un langage précis. Je pense en particulier à ce terme otage là qu'on entend toujours quand il y a des grèves de services publics, hein, on prend en otage un certain nombre de gens, donc c'est ça, sphère quand même réduite à un certain nombre de personnes qui se connaissent ou qui peuvent être débauchés de médias pour aller à d'autres, qu'on retrouve finalement dans un circuit d'embauche au fil des années. Donc je disais les éléments de langage et ces fameux experts. Aujourd'hui, c'est encore le cas.
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, le rôle est la place des experts est particulièrement intéressante à analyser, parce qu'effectivement, comment on recrute ces gens-là? Ces gens-là, on les recrute sur des critères d'abord et avant tout de conformité, on va dire, globale avec le point de vue que les journalistes ont déjà sur la situation économique, la situation sociale, etc. C'est pas, la plupart du temps, c'est pas des experts qui sont, au fond, dissonants à l'égard du discours médiatique dominant. Au contraire, on pourrait dire que c'est presque des amis. Je me rappelle, il y a un certain nombre d'années de mes années d'étudiant, avoir lu un texte d'un sociologue qui parlait des amis du Nouvel Observateur, c'est-à-dire c'était tous ces gens qui venaient, ce Nouvel Observateur étant un média hebdomadaire, mais à dimension intellectuelle, où on invitait un certain nombre d'intellectuels, mais qui étaient un peu les amis du journal, enfin qui développaient un peu le même type de vision du monde. Ben alors, les experts, c'est un peu ça. Là, il se trouve ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un marché au fond de l'expert. En plateau de télévision. C'est des choses qui existent aux États-Unis en particulier, puisque vous êtes là, les gens sont sollicités financièrement aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. C'est-à-dire que là, quand un expert, on lui dit de venir, bon, il vendra sans doute un peu plus de son bouquin qu'il vient de publier à bon escient. Là, ça tombe bien, puisque justement, il y a l'événement d'actualité, etc., qui est assez redondant avec le texte qu'il vient d'écrire, donc c'est parfait. Voilà. Puis il y a aussi le rôle des sondages, parce que je pense qu'au fond, toute cette le principe de faire intervenir des gens qui ont un capital de connaissances, pourquoi pas, et c'est sur le principe, c'est évidemment tout à fait bien, d'autant plus que les journalistes d'ailleurs sont souvent assez ignorants des sujets. Ils savent faire un article, ils savent comment on peut s'y prendre pour en tout cas pour les journalistes qui écrivent dans les informations générales, ils savent comment s'y prendre pour trousser un article, comment dire, rapidement sur un sujet. Mais par contre, c'est pas des experts, c'est pas des spécialistes. Alors, même s'il y avait une partie des dans le secteur, alors ça, ça fait partie des évolutions et des transformations de la presse, c'est-à-dire que l'écrasement, on pourrait dire, de la presse d'information générale qui exerce aujourd'hui sur la presse spécialisée. Vous avez de moins en moins de journalistes des rubriques spécialisées. Alors du coup, les experts, c'est bien, hein, puisqu'on les invite, voilà, on les paye pas, et ils viennent faire un petit laïus, en plus ils ont une autorité, voilà. Et donc c'est une manière de contourner, d'abord de pallier à la déficience de compétences qui sont celles des journalistes, certes, mais aussi de donner par la parole exprimée par autrui et par une autorité savante, on pourrait dire un statut de légitimité encore plus grand aux visions journalistiques, parce qu'encore une fois, hein, c'est, là on voit bien dans le film, il y a un film qui s'appelle les chiens de garde, où on parle un peu de cette question les nouveaux chiens de garde, pardon. On voit un peu ces experts qui tournent, hein, sur les questions économiques en particulier, qui tournent, voilà. Les économistes à gages, comme on les appelle par ailleurs. Et donc, voilà, c'est à peu près toujours les mêmes, et on sait à peu près, ils sont à peu près dans la vision orthodoxe de la pensée économique, qui est partagée par une grande partie des journalistes économiques, et voilà.
Oui, c'est ça. En fait, dans les nouveaux chiens de garde, ce qu'on voit bien aussi, effectivement, c'est la proximité de toutes les personnes qui sont, alors, les experts, les journalistes, les sachants, les demandeurs, etc. En fait, c'est la proximité, effectivement, de formation, c'est-à-dire qu'ils viennent des mêmes écoles. Oui. Ou des mêmes quartiers, on va dire. Ouais. Voilà, il y a une proximité qui fait que, eh ben, il y a forcément aussi une proximité de
façon de penser, quoi.
De manière de penser. Mmh. Ouais.
De manière de penser.
Ils fréquentent les mêmes lieux, ils ont la même formation, ils sont passés par Sciences Po.
Et on n'est pas forcément dans un débat contradictoire, comme on est d'accord, donc c'est aussi facile, c'est une solution de facilité.
Ce qui manque, finalement, c'est la contradiction. Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y ait plus de contradictions, pas forcément un recul de ses experts ou de ses invités, mais plus de contradictions. Et on s'aperçoit que finalement, c'est ça, peut-être.
Tout à fait. Oui.
Le problème de la couverture des mouvements sociaux, d'un certain nombre de sujets, c'est le problème de la contradiction, de la place donnée à la contradiction dans ces grands médias. On pourrait imaginer aussi que le fonctionnement entre des médias privés et des médias publics soit un peu différent, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même.
Et d'ailleurs, dans ce qu'on peut trouver comme article sur le site, il n'y a pas seulement une analyse de traitement de différentes thématiques, vous avez également aussi une analyse de la gouvernance, notamment des grands médias.
Alors, effectivement, on est quand même dans une période historique particulière, parce que là, il y a des transformations qui sont survenues depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans dans le secteur des médias, sont vraiment tout à fait gigantesques, quoi. Enfin, bon, et là, le paysage tel qu'il était il y a 30 ans, 40 ans, et tel qu'il est aujourd'hui, est évidemment complètement transformé. On sait, c'est quand même assez répandu pour que un peu ça puisse presque être compris et admis par le grand public, mais aujourd'hui que la plupart des grands médias, tout ce que vous touchez à peu près dans ce secteur, ont été accaparés par un groupe de 9 ou 10 milliardaires qui sont en même temps des gens qui vendent différents types de produits, que ce soit du béton, hein, voilà.
Qui profitent des commandes publiques.
Voilà, qui profitent des... oui. Et donc, du coup, là effectivement, il y a quand même une transformation du secteur qui fait qu'on n'a plus du tout affaire à un secteur ouvert, au contraire. Vous avez des médias ou des propriétaires qui ont une telle... Alors évidemment, il y a une figure emblématique, hein, c'est Bolloré, hein, bien sûr. Ce genre de gens qui débarquent qui achètent des journaux comme ils achèteraient autre chose assez facilement. Leur objectif, c'est surtout de parvenir à museler une parole critique, imposer évidemment de façon très virulente. Hein. Enfin, il y a un management absolument autoritaire et sans... Voilà, imposer des choses comme on le faisait. Alors évidemment, les journalistes aiment bien rappeler que dans les années 70, vous aviez un ministre de l'information, ou un peu avant, vous aviez un ministre de l'information qui appelait les salles de rédaction et ils vous disent oh là là, on était vraiment dans une période sans... Alors aujourd'hui, c'est exactement la même chose, c'est même pire, hein, puisque c'est aujourd'hui, c'est les propriétaires des médias là, qui font l'appui et le bouton. Alors bien sûr, ils interviennent pas forcément directement sur l'antenne, ils interviennent à travers d'autres mécaniques qui consistent à sélectionner les agents, leur hiérarchie, qui consiste à donner des mots d'ordre sur la façon dont les choses vont être publiées, sur les formats, etc. Donc tout ça passe par des médiations plus complexes peut-être, mais en tout cas ça aboutit à peu près aux mêmes choses, c'est-à-dire quand même, y compris un musellement en interne, hein, du monde journalistique lui-même.
Et on aurait pu penser quand même qu'avec l'arrivée d'Internet, on aurait une pluralité, Et est-ce qu'il y a quand même eu un impact, sachant quand même que sur les petits médias, est-ce qu'ils ont la même audience? Alors pas forcément, ni la même confiance. Enfin, est-ce que les usagers ont la même confiance, étant donné qu'ils ont moins de moyens et qu'on garde peut-être la puissance des grands journalistes et de ce qu'on, du vu à la télé.
Oui, je dis, sur la question d'Internet, effectivement, on peut avoir, tout dépend du point de vue d'où on se situe, de la manière dont on est informé, les moyens dont on a pour s'informer. On a l'impression effectivement que l'Internet est vraiment une réelle alternative à ces médias traditionnels. Alors c'est le cas dans certains cas, il y a des médias alternatifs indépendants qu'il faut défendre, etc. Mais cela étant, je pense qu'il y a une sorte d'homologie de situation quand même qui s'est installée dans les médias, dans le monde numérique par rapport aux médias traditionnels, c'est-à-dire que les médias numériques qui fonctionnent le plus, qui sont les plus consultés, restent les sites internet des grands médias traditionnels. Oui. C'est-à-dire effectivement.
Et puis si les mieux regardez... référencés, donc de tout.
Absolument, voilà. Donc qui apparaissent, ce sont ces médias-là qui apparaissent d'emblée sur les moteurs de recherche, etc. Donc cela étant, les médias, enfin internet, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les médias alternatifs, ou le a produit quand même une forme de d'ouverture quand même. Hein, qui permet de libérer un petit peu la parole. Mais cela étant, il faut la relativiser. Enfin, on dit souvent, avec un Crémet, on a une sorte de formule, qu'on dit que les médias alternatifs sont importants, et il faut les défendre, mais ils ne constituent pas forcément une alternative aux médias. C'est-à-dire que le combat, c'est aussi un des chevaux de bataille d'Acrimet, c'est aussi de porter le combat sur les médias dominants. Voilà.
Je voulais revenir aux médias publics, parce que alors c'est vrai que je disais que sur les médias privés, alors il y a effectivement... la dominante privée avec donc ces grands PDG qu'on rachetait des titres, etc. Et donc il y a effectivement une forme de pression telle sur les salariés, sur les journalistes, que bon. Mais pour les médias publics, est-ce que le problème en fait c'est donc plus de l'autocensure, en dehors du fait qu'on disait tout à l'heure quand même qu'ils se connaissent, hein, il y a un certain nombre de grands journalistes, des grands médias publics qui viennent aussi, enfin ils se connaissent tous, etc. Mais est-ce qu'au niveau du média public, il n'y a quand même pas encore quelques poches de résistance qui fonctionnent bien, d'autant que, moi je pense aux radios, etc. Alors, c'est là aussi peut-être la difficulté et la subtilité ou le cynisme peut-être aussi des choix qui sont faits dans ces grands médias publics. C'est peut-être aussi donner la parole à de la contradiction, mais sur suivant des heures qui sont peut-être moins accessibles ou moins écoutées. Enfin, voilà. Mais j'avais l'impression quand même qu'il y avait encore un petit peu d'espoir sur les médias publics, parce qu'il y a quand même des journalistes qui résistent. Je pensais à Élise Lucet avec sa... Elle a quand même, elle s'est battue pour que son émission passe. Je suis plus sur la 2 ou sur la 3, enfin bon, peu importe. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quand même pas de ce côté-là un peu moins ou quelques espoirs encore que bon, ça demeure des espaces où il y a des choses qui sont dites.
Oui, moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas complètement, j'allais dire, calquer le modèle du privé sur le modèle du public. Il y a effectivement un petit peu des différences qui restent. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a toujours une tendance, j'allais dire, qui va croissante dans le temps. À une logique d'uniformisation et qui passe par un ensemble de, bah par exemple, l'introduction de la publicité, puis ensuite le fait d'enlever la publicité sur la télévision, qui c'est, alors on pouvait penser que c'était une grande idée, le fait d'enlever la télévision. C'est une vieille revendication, on peut dire, de gauche, hein, qu'il n'y ait plus de publicité à la télévision, très bien, sauf qu'au moment où Sarkozy l'a fait, c'était pas tellement dans un objectif absolument formidable pour défendre la qualité de l'information, c'est surtout parce qu'au fond, il y a deux pouvoirs qui dominent dans le secteur, il y a le pouvoir économique et le pouvoir politique, et à partir du moment où le pouvoir politique domine un peu moins, c'est le pouvoir politique qui va reprendre la main. Donc l'objectif de Sarkozy, c'était de faire en sorte de toute façon d'être celui qui allait désigner les chefs de, enfin les présidents de France Télévisions, etc. Donc c'est comme ça que les choses se sont traduites. Donc il y a peut-être effectivement un peu encore une mentalité, mais qui est de quelques niches, oui, effectivement. Cache Investigation, par exemple, enfin, qui est une pardon, petit chien dans la gorge au passage, voilà. Pardon, qui est une émission qui a fait des choses intéressantes, c'est bien. Enfin, le problème, c'est qu'il faudrait que de ce genre d'émission, qui qui nous donne à l'idée de ce que devrait être à peu près un journalisme respectable, il faudrait qu'elle soit multipliée par 10, enfin qu'on ait ce genre de choses, que ça devienne le mode à peu près ordinaire de production d'informations. Or, à côté, vous avez du blabla, des choses où, bah voilà, des petites informations qui font diversion, évidemment, la sécurité dont on nous rebat en permanence les oreilles. Voilà, c'est une bonne manière de faire en sorte d'éduquer le peuple à être en attente en permanence, hein, de mesures toujours plus répressives, etc. Voilà, donc, voilà. Mais moi, je suis d'accord avec vous, il reste encore quelque peu d'espoir, même si en même temps, le monde journalistique, il est lui-même. Il est entre des logiques, disons, compliquées. Enfin, voilà. Donc, nous, on a tendance à penser, d'ailleurs, que pas spécialement être un criminel, spécialement défenseur du service public d'information, mais au contraire, de souhaiter... Alors, il se trouve que notre association n'a pas été simplement une association critique, puisqu'on a développé un certain nombre de propositions, voilà, et qu'on soumet, d'ailleurs, régulièrement aux candidats à l'élection présidentielle, voilà, et qui, notamment... portait, alors avec l'idée qu'il faut le principe central, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une réappropriation médiatique des médias. Je vais terminer avec ça.
Et ouais, voilà. On va revenir là.
L'appropriation médiatique, puis on y reviendra.
Simplement ajouter qu'effectivement le problème aussi de l'audiovisuel public, c'est son sous-financement. Ce qui fait effectivement que ça lui permet pas de... Enfin, il continue effectivement à être complètement dépendant des logiques, enfin des logiques d'audience, de ces logiques de concurrence, parce qu'il est sous-financé, il n'a pas les moyens. Donc en fait, il est en permanence...
Donc audience, concurrence, mais...
Oui. Mais ce qui crée une uniformisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde veut entendre la même chose, et donc on entend aussi la même chose, qui ne laisse pas forcément la place des émissions un peu plus diverses ou critiques.
On pourrait s'attendre aussi à une meilleure résistance, une plus grande résistance de la part des journalistes, des reporters, etc. Parce que finalement, on pourrait s'attendre du service public une meilleure organisation, comme il peut y avoir une organisation. Enfin, on pourrait s'attendre de la part des personnes qui y travaillent peut-être plus de résistance, finalement. Mais comme je pense aussi que ce sont des hommes et des femmes qui, eh bien, comme dans les médias privés, ont aussi leur sensibilité qu'aujourd'hui, peut-être que c'est ça, en fait, on recrute les personnes qui viennent toujours du même moule. Donc on a un peu de mal à faire venir des gens ou à entendre des gens qui osent parler autrement. Petite pause musicale.
La France, on l'aime ou alors on la quitte. Aux vacances prochaines, il ira en Égypte. On est sûr de bronzer, vu le prix que ça coûte. Alors là, pas de doute. C'est bien ce qu'il veut d'ailleurs, il est très clair. Il faut ouvrir les yeux, mais fermer les frontières. C'est rien que des feignants, ça veut jamais bosser. Mais ça vole pourtant le travail des Français. Mais quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on est réaliste, ben lui il en revient pas d'être aussi peu raciste. Il est souvent même assez tolérant. La preuve, il a un pote coréen comme un accent. Qui confirme la règle, on serait bien dans la merde. S'ils étaient tous français dans l'équipe de France. Et comme il est inquiet chaque fois qu'il y pense. Cela bien entendu qu'il faut pas les confondre. Ils sont les bienvenus pendant la Coupe du Monde. Et quand on voit ce qu'on voit, et puis quand c'est ce qu'on sait, bah lui il en revient pas l'avoir toujours pensé. Une femme s'est fait pour garder les enfants, pas pour être voilée. Lui la sienne, c'est vrai qu'elle est libre au foyer. Mais entre le tchador et puis les kamikazes, c'est toujours la goutte d'or qui fait déborder le vase. Et là c'est la panique, on dira ce qu'on veut. C'est pas très catholique de croire autant en Dieu. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on vit ce qu'on vit, ben lui il en revient pas de l'avoir toujours dit. C'est très logique et pas du tout facho. Mais que fait la police avec tous nos impôts? Cela dit, faut ce qu'il faut. Décidé, il en a, lui, il vote à chaque fois. C'est la démocratie, il a le droit de s'exprimer. N'en déplaise aux gauchistes, aux femmes et aux PD. Puis comme il est d'accord que la vie c'est sacré,
Donc on écoutait Agnès Bille, Quand on voit ce qu'on voit. Et donc on est toujours avec Pascal et Jacques d'Acrimed. Donc juste avant Agnès Bille, on vous évoquait le fait que vous étiez aussi pas seulement dans la critique mais dans la proposition. Propositions médiatiques, notamment quand, au moment des campagnes, mais est-ce que vous avez des réponses quand vous faites des propositions ?
Oui, c'est plutôt alors, il y a toujours des réponses, parce qu'en fait, ils sont, au moment où il y a des élections présidentielles, sauf exception, et qu'un certain nombre de questions sont posées aux candidats, ils aiment bien y répondre, parce qu'ils savent de toute façon que ça sera publié, et même si ça consiste à enfumer au maximum les gens sur leurs propositions très progressistes à l'égard des médias, au moins, comme c'est un moment de communication politique, c'est un élément de leur communication. Voilà, et on se rend compte qu'après, en particulier pour le Parti Socialiste et François Hollande, quand il avait été élu, il y a un certain nombre de choses qui étaient avancées, et à peu près rien n'a été fait, ou à peu près. Donc du coup, il s'est agi de laisser les règles de fonctionnement à peu près en l'état, sans rien modifier. Donc effectivement, voilà. Alors, les propositions d'Acrimed, parce qu'on était tout à l'heure en train de parler du service public d'information, alors effectivement, derrière le mot d'ordre d'appropriation démocratique des médias, il y avait l'idée qu'il faudrait trois secteurs. D'abord un secteur privé qui soit comme celui d'aujourd'hui, mais avec des règles nettement revues à la baisse, en particulier sur les seuils de concentration des médias, notamment, puisque effectivement, interdire par exemple le fait de posséder un nombre trop important de médias ou de médias différents, parce que tous les groupes aujourd'hui, Bolloré ou d'autres, Bouygues ou d'autres, ils ont la particularité d'avoir une chaîne de télévision, un journal, une radio, etc. Ou voir des maisons d'édition, etc. On pense à Hachette, etc. Donc ils ont au fond la totalité du circuit des médias. Voilà ce qui leur permet un peu de contourner la loi, le reste de loi sur la concentration des médias qui existe. Cela dit, c'est bien insuffisant, puisque aujourd'hui on est dans une situation où le monopole exercé par ces 9 milliardaires sur les médias est tel qu'il y a à peu près plus rien qui peut se faire sans leur accord. On reviendra sur les questions du secret des affaires parce que c'est peut-être important. Voilà. Donc nous, dans nos propositions, il y a l'idée qu'il faut museler le secteur privé des médias. Renforcer le secteur public des médias. Jacques parlait tout à l'heure de son sous-financement. C'est aussi une politique, ça. Celle qui consiste à affaiblir et à étouffer dans l'œuf ce média lui-même. Alors donc, il faudrait une vraie politique de service public de l'information. Mais comme on n'est pas tout à fait dupe du public lui-même, et on n'a pas de religion pour le public lui-même, il faudrait aussi qu'il y ait à côté de ça un troisième secteur. Alors on est là dans le troisième secteur de l'information, c'est-à-dire tous ces médias qui sont hors des logiques capitalistiques et qui ne sont pas dans le secteur public. Et que là, il faudrait une vraie politique pour essayer de les développer, pour essayer de les financer, pour faire en sorte qu'ils existent, médias communautaires. Alors, effectivement, dans une radio, là, on est vraiment dans ce genre de choses, mais voilà, ça fait partie aussi de ce que pourrait être une offre médiatique qui soit plus proche des citoyens, qui ne soient pas simplement des racontars et des pipoleries.
Et qui permettent même une information participative, parce qu'en étant plus proche...
Tout à fait, non, mais c'est absolument. Donc voilà, donc nous, c'est ce genre de choses, évidemment, qu'on propose depuis un certain nombre d'années. Voilà, on espère qu'un jour, ça prendra un peu, ça a pris un peu pour les élections, puisque la France Insoumise a repris certaines de nos propositions. Mais voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font sans grands moyens. Hein. Je pense par exemple au site Basta, je pense qu'il rencontre une certaine forme de succès, mais effectivement qui a besoin d'être financé. Donc ça veut dire aussi que nous, citoyens, on a tout intérêt à... Oui. Voilà, à s'investir, ou en tout cas participer financièrement à ce genre de choses.
Je ne veux pas passer mon temps à accaparer la parole, mais citer deux exemples. D'une part, par rapport à... Alors, effectivement, ce que tu dis, là, ça me paraît très, très important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des médias qui vivent à peu près que de l'aide et du soutien de leurs lecteurs. Alors, je pense évidemment à Acrimed, ça ne peut pas non plus. Alors, du coup, pour citer qu'il y a une subvention, une demande de subvention... Pas de subvention, de don, d'appel à don, pas de subvention. là, au secours. On n'a jamais demandé de subvention à qui que ce soit, et Acrimed n'a jamais reçu un seul denier de l'État.
C'est une question que je voulais vous poser à la fin, justement, pour interpeller les auditeurs là-dessus. Donc, le financement d'Acrimed, c'est les adhésions et les ventes des revues.
De la revue, oui, Média Critique, absolument. Et effectivement, des appels à dons, qui ont rencontré un certain succès jusque-là, même si peut-être que maintenant ça va s'épuiser un peu, je ne sais pas, j'espère pas. Mais voilà, alors tu citais Basta aussi. Alors donc, et on peut penser aussi de manière différente au monde diplomatique, qui est quand même très aidé par l'Association des Amis du Monde Diplomatique, etc. Donc là, il y a effectivement la possibilité que des lecteurs aient quand même un poids, quand même, malgré tout, et défendent aussi derrière leur soutien, leurs cotisations, leurs achats, et défendent aussi une certaine conception de l'information. Oui.
Cela dit, le problème des subventions, parce qu'en fait, tous les grands titres aujourd'hui reçoivent de l'argent public, hein.
Bah oui.
En fait, tous, quasiment, hein.
Oui, oui.
À part quelques journaux comme, je sais pas, Politis, peut-être, Le Gainer Enchaîné, Le Monde Diplôme, je sais pas s'il reçoit ou pas.
Ah non, il recevait pas jusqu'à un certain temps. Alors maintenant, ça a été revu, je sais pas si c'est le cas, mais alors, effectivement.
Aujourd'hui, la presse est subventionnée quand même, en partie, quand même par l'État. Oui. Suivant des critères qui ne sont pas toujours très transparents, c'est surtout ça. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que oui, pourquoi pas. Les subventions publiques, c'est aussi le résultat de nos impôts, etc. Quand on subventionne une association, etc. Moi, je ne suis pas forcément contre des subventionnements. Ça ne veut pas dire qu'on doit être redevable, s'aligner sur des positions, etc. Le problème, effectivement, c'est la transparence de ce mode de versement. Sur quels critères? Bon, au départ, normalement, c'était fait pour justement qu'il y ait pluralité de la presse. Mmh, on est bien d'accord.
Absolument. Oui.
Mais en fait...
Le principe des subventions, ça fonctionne de manière complètement aberrante, puisqu'il y a... La première chose, il faudrait commencer par distinguer la presse d'information de la presse de divertissement. Enfin, bon... ce qui n'est pas le cas, donc ça donne effectivement quand vous regardez le classement des magazines ou des journaux qui sont les plus subventionnés, vous tombez sur des choses complètement aberrantes, hein. Vous avez le journal de Mickey, ou par exemple, ou Télé 7 jours, qui ont des subventions autrement plus importantes que Le Monde Diplomatique ou des journaux d'information, on pourrait dire, voilà.
Donc, je propose qu'on passe à un sujet qu'on souhaitait aborder, qui est un peu le... On a l'impression qu'on nous présente ça comme la maladie des médias et que c'est tout nouveau, les fake news, les fausses nouvelles. Alors, est-ce que c'est un nouveau... On lui met un nouveau nom, on ne va pas me faire croire que ça n'a jamais existé, mais...
Oui, alors les fake news, c'est vrai que les médias dominants semblent avoir identifié un ennemi depuis quelques temps. C'est-à-dire une forme d'information qui serait peu regardante à vérifier ses sources, qui serait suspecte d'être affiliée à des États étrangers, qui serait peu soucieux de démocratie.
Ce qui veut dire que les médias dominants se mettent à la critique et à la surveillance des médias.
Donc. Oui. Ou encore qui seraient des infos qui seraient entièrement adossées à des réseaux sociaux, qui seraient considérées pour la plupart comme des robinets à fausses informations. Alors c'est très ironique, parce que c'est très drôle, parce que la grande presse qui se pense en garante d'une information neutre et responsable, hein, et s'affiche en parangon de la liberté d'expression face au péril de ces fameuses fausses nouvelles. C'est un terme en fait qui regroupe, hein, dans un fourre-tout bien commode, à la fois des infos qui sont issues de sites de propagande parmi les plus réactionnaires, hein, également de type F de souche, enfin Égalité et Réconciliation, site d'extrême droite, la fachosphère, hein, comme on dit, voilà. Et puis il y a aussi des médias associatifs qui sont eux destinés à la critique sociale ou au combat militant, ou encore plus simplement des médias indépendants des puissances financières, voilà. Donc auxquels ces grands médias d'ailleurs, si promptes à se refaire une sorte de virginité déontologique, appartiennent pourtant dans 90% des cas, Pascal l'a dit tout à l'heure, hein, voilà. Donc pour les médias, pour ces grands médias, on va dire institutionnels, ces médias dominants, cette crédulité du public à l'égard des fausses nouvelles s'apprête de plus en plus leur travail de réflexion, leur effort de pédagogie, le souci d'objectivité, de leur analyse, et ça ferait surtout le lit de tous les populismes, hein, de droite comme de gauche, hein, ça c'est un grand classique, voilà. Alors... je rappelle d'abord que, enfin, on peut rappeler que les médias dominants n'ont jamais été avares de fausses nouvelles, hein, depuis, alors, depuis évidemment les faux charniers de Titi Meshoara en 1989, la présence d'armes de destruction massive en Irak en 2004, jusqu'à celle plus récemment autour des circonstances de la mort d'Adama Traoré, ou encore plus récemment le sauvetage d'une petite fille qui avait été prétendument sauvée par les CRS d'une voiture, et qui était une information qui avait été diffusée sans vérification et sans usage du conditionnel par le Parisien Libéré ainsi que par Valeurs Actuelles et le JDD, le journal du dimanche. Alors évidemment, à Crimed, il ne s'agit pas de nier la capacité de nuisance des fausses informations ou les prises de position catastrophistes, déclinistes ou réactionnaires des sites de la fachosphère. Ce qui pose problème, c'est la manière dont les médias, les grands médias, instruisent sans distinction et de manière générale le procès en désinformation, on pourrait dire, des médias alternatifs qui ne partagent pas leur analyse.
Et parce que ça leur permet de se positionner comme on a les moyens, on est les sachants, nous, notre information, elle est bonne, vérifiée. Certifié, et ça leur permet de renforcer leur place dominante.
Oui, absolument. Oui. Oui. Et en fait, l'étiquette, effectivement, fake news est une étiquette bien commode, cette étiquette qu'ils mettent en avant pour stigmatiser, au fond, pour disqualifier ceux qui leur font concurrence. Ça rappelle avant tout que les médias dominants restent incapables de saisir, ils sont incapables d'auto-réflexion, ils sont incapables de saisir le sens de la désaffection du public à leur égard. À savoir, on l'a dit, des lignes éditoriales qui sont complètement uniformément orientées vers une seule et unique vision du politique, et donc complètement exclusives de toute autre option qui dévie un tant soit peu de la ligne sociolibérale. Qui renvoie toujours évidemment à l'archaïsme, au dépassé, ou encore au gauchisme le plus irresponsable. Un exemple, c'est pour cela que Céline Pigalle, qui est toujours d'ailleurs directrice de la rédaction de BFM TV, elle disait, je cite, « Il faut obtenir que les gens nous croient. » Quand elle dit ça, c'est parce qu'elle est convaincue, je cite encore, « que lorsque les électeurs citoyens, c'est elle qui le dit, ne nous écoutent pas, ils votent n'importe comment. » En d'autres termes, ils votent pas comme nous, quoi.
Mais ça fait presque référence quand même à la parole de, pas de Dieu, mais de celui qui possède l'information.
Ça fait un peu voter comme moi, alors que le principe, quand même, n'est pas... Oui. On informe, mais on n'oriente pas.
En fait, dans cette affaire de fake news, je pense que les médias dominants, ils s'érigent en juges d'une prétendue dérive du journalisme, alors qu'ils sont partie prenante du problème.
Parce que je pense ils utilisent quelquefois ces fake news pour justement faire passer tout un discours qui est quand même limite en désinformation ou en propagande officielle, quoi.
Oui, oui. Absolument, oui. Mmh. Puis, enfin, genre, je vais donner quelques exemples de véritables fake news des médias dominants. Enfin, c'est bon. Il suffit de revenir quelques années en arrière. Là, j'avais noté quelques exemples assez parlants. Au moment de la crise grecque de juillet 2015, du bras de fer entre le parti Syriza d'Alexis Tsipras et l'Union européenne, donc, ça n'est pas sur les réseaux sociaux et dans les médias indépendants qu'on a pu nous expliquer que Alexis Tsipras refusait de baisser les dépenses militaires de la Grèce parce que le ministre de la Défense est un ministre d'aube dorée d'extrême droite. Certains diraient proche d'un parti nazi. Cette phrase, cette fake news a été entendue sur France Inter dans la bouche de Dominique Seux, qui était l'expert économique, chroniqueur économique.
Tous les
pareil, voilà. Ou alors, lorsqu'Alexis Tsipras. C'est pas aussi dans les médias indépendants qu'on a entendu, je cite, lorsqu'Alexis Tsipras avait remporté les élections législatives en janvier, Marine Le Pen avait trompeté sa joie et avait tambouriné son allégresse. Le Front National disposait enfin d'un exemple concret de la voie qu'il veut suivre en France. La Grèce allait être la maquette de l'extrême droite française. Ça, c'est dans les colonnes de Libération de la plume d'un certain Alain Duhamel. Voilà, donc, effectivement. L'idée de dénicher les fausses informations n'est pas inutile en soi. Encore faudrait-il que les médias, les grands médias, ne l'utilisent pas pour se refaire à bon compte une sorte de virginité déontologique, en essayant de répandre une opposition simpliste entre d'un côté des médias indépendants, qui sont un peu fiables parce que politisés, militants.
Militants, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Pour disqualifier les personnes qui vont aider éventuellement les migrants. Il ne faut pas être militant.
Voilà. Voilà. Et donc ça renvoie les médias dominants du côté de la RE, qui s'affichent comme crédibles parce qu'ils sont modérés, ils sont soucieux de
prendre des décisions. Modérés, ils sont objectifs, voilà.
Oui, de présentation factuelle. Voilà, eux, ce sont les faits, quoi. Voilà. Donc, c'est,
voilà. Bah, tout récemment, moi, il y a comme ça une phrase qui m'a fait bondir, et d'ailleurs à Trimed, moi je m'intéresse à la Palestine, on le sait bien ici dans cette émission, mais il y a eu un très bel article hein, sur le traitement des tirs sur Gaza là, sur Acrimed, la manière dont les grands médias avaient traité aujourd'hui hein, les manifestations des Gazaouis là, sur le, en bordure là, pour la marche du retour, etc. Et tout récemment, là, c'était sur la 3, hein, donc chaîne publique, la journaliste dit cette fois-ci, les militaires israéliens ont pu être touchés par des cerfs-volants. Point. Elle a fini sa phrase comme ça, par des cerfs-volants. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi, cerfs-volants? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces cerfs-volants? Il y avait des bombes qui... Mais ça a été, pour la première fois, les militaires israéliens ont pu être touchés par les cerfs-volants. Donc ils ont été agressés par les cerfs-volants. Ouais. Donc c'est terrible.
Oui, oui. C'est pour ça que les journalistes ne se rendent même plus compte de ce qui... de ce qu'ils racontent, quoi.
Donc là, ça va au-delà, je veux dire, de la fausse information. C'est une information complètement aberrante à des fins de discours ambiant.
Oui, ouais, mais il en reste quand même un sentiment, j'ai parlé d'ambiance.
Il s'agit de présenter les Israéliens comme victimes, hein, c'est ça qui est recherché, et tous les moyens sont bons, et même les pires ridicules, comme ceux que tu évoques, enfin... Ça s'appelle du parti pris, enfin, on pourrait dire idéologique, hein, qui ne relève pas du tout du travail d'information.
Au sujet des fake news, alors tu en avais terminé?
Oui.
Je me souviens, un très célèbre quand même, enfin, c'était le fameux nuage de Tchernobyl, non?
Oui. Ah ouais. Ben ça c'est clair.
Ça a été le symbole de l'information traitée, retraitée, retransmise, n'est-ce pas? Où on avait une frontière impénétrable.
C'est terminé d'une manière sur le plan législatif, puisque finalement cette production médiatique au fond de la fake news débouche sur une loi. Donc voilà, donc alors qu'il existe déjà des lois hein, sur la diffusion de fausses nouvelles, hein, enfin bon, voilà, tout ça est
extrêmement
politique.
Et en parlant de loi, on va parler peut-être effectivement du secret des affaires.
Oui, alors donc on peut faire le lien effectivement avec ça, parce que là autant ce que tu décrivais, Jacques, et ce dont on parlait, c'est on va dire une offensive des médias dominants pour essayer de restaurer une légitimité qui est quand même très très largement aujourd'hui en défaut chez eux, et d'apparaître un peu au-dessus de la mêlée. Voilà. Par contre, ils s'érigent pas tant que ça les médias dominants en défenseurs. De la liberté de l'information et de la presse, qui est aujourd'hui évidemment très très largement mise en cause, mais de manière historique, hein, on n'a jamais vu. Alors ça, c'est au fond, c'est même si à Acrimed on ne fait pas exactement de discours sur la politique actuelle, là, je me permets une petite parenthèse personnelle pour dire qu'effectivement ça s'inscrit un peu dans par rapport au gouvernement qu'on a en place, dans la série des transformations particulièrement radicales qui sont engagées dans un certain nombre de secteurs. Et là, sur le secteur des médias, il y a effectivement ce projet de loi qui est actuellement en discussion au Sénat, qui a déjà été adopté par le Parlement sur le secret des affaires. C'est une directive européenne qui a été, comme toute directive européenne, elle doit être mise en œuvre dans l'ensemble des pays de l'Europe et adaptée aux législations nationales. Et il se trouve que pour le cas de la France, l'adaptation aux législations nationales est encore plus dure que la directive européenne. On a considérablement renforcé le texte et on l'a fait passer sur le mode de l'urgence. Voilà, ça permet au moins du débat. Alors ça, c'est une stratégie, une méthode politique qui devient l'évidence. Hein. Voilà, quand on est dans une démocratie vivante et heureuse comme la nôtre, on sait très bien que quand il y aura des lois qu'on veut faire passer, eh ben, ça sera du 49-3, ça sera des mesures d'urgence, etc. Donc là, on a à faire la même chose. Alors effectivement, cette loi sur le secret des affaires, elle est absolument atterrante. Elle transforme et elle renverse complètement l'ordre des choses du point de vue du travail journalistique. Il y a un certain de gens qui ont parlé de ça.
Elle remet en cause donc la protection aussi, la protection des sources pour les journalistes.
Voilà, le truc, c'est que le secret des affaires, alors auparavant, quand les journalistes font leur travail, ils ont le droit, alors, juste une petite parenthèse, si vous allez sur le site de Mediapart, si vous êtes, que moi j'aime bien consulter, il y a un article qui est paru, enfin une série de petites vidéos qui sont parues, qui sont très complètes, où on fait intervenir un certain nombre des acteurs, hein, ceux qui ont des lanceurs d'alerte, etc., qui ont contribué à la réflexion sur cette question du secret des affaires, et à lancer des informations, et le LuxLeaks, par exemple, je me rappelle plus le journaliste, là c'est Deltour, là, j'ai noté son nom, là, Antoine Deltour, là, qui avait lancé... Bon, qui était un salarié d'une entreprise d'audit et qui avait accès à la banque de données de cette entreprise, et il a vu passer un certain nombre d'aberrations, et en tant que citoyen, on va dire, il a diffusé ces informations. Alors il a été évidemment accusé par son employeur, mis en cause juridiquement, donc il a d'abord perdu ses procès. Maintenant, il a eu un appel où il a eu un peu une cassation qui l'a permis de sortir en partie d'affaires. Mais disons que qu'est-ce que c'est que le secret des affaires ? C'est la possibilité pour toute entreprise, tout organisme, toute institution, tout gouvernement, quel qu'il soit, de considérer comme illégitime et donc illégal, et de défendre comme étant illégal la pratique qui consiste à faire mener une enquête et... qui passe par un certain nombre de choses. On ne mène pas une enquête en lisant des dossiers de presse. Voilà, on mène une enquête en faisant des investigations, en récupérant des informations sur les entreprises, en allant étudier leurs comptes, en interrogeant des gens, etc. Donc, voilà. Et donc, le secret des affaires, ça va permettre, et ça permet déjà, hein, on voit le cas de Bolloré, hein, le groupe Bolloré, dès qu'ils sont mis en cause, qu'est-ce qu'ils font ? Pour une enquête ou pour une autre, et ben ils attaquent les gens et ils leur demandent des dommages et intérêts de millions d'euros. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça empêche que l'enquête soit publiée, et en même temps c'est ce qu'on appelle les procédures Bayon, hein, c'est celle qui empêche l'expression, la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Alors on les attaque sous des chefs d'inculpation divers et variés, hein, on peut dire qu'ils portent atteinte à l'image de l'entreprise, qu'ils dénigrent l'entreprise, etc. Et voilà, et donc qui le mettent en cause finalement, l'entreprise, sa viabilité, etc. Bon. Donc du coup là, si cette loi passe, et si elle passe en l'état, c'est une catastrophe véritablement pour le secteur des médias, puisque désormais les journalistes, si elle était déjà présente, il y a un certain nombre d'affaires qu'on a connues récemment qui n'aurait pas été possible d'évoquer publiquement. Et là, donc, si cette loi elle passe, ben vous allez avoir une grande difficulté parmi les journalistes à faire tout simplement leur travail. C'est-à-dire que le droit de l'information est devenu illégitime. Et ce qui est légitime, c'est le droit des chefs d'entreprise, des responsables gouvernementaux, de mettre en cause tous ceux qui portent atteinte à son autorité, son intégrité, etc. Donc là, il y a quand même un enjeu formidablement important, et c'est tout à fait caractéristique de ce qui se fait dans ce gouvernement. Enfin, il y a quand même des renversements.
On a l'impression que ça s'est amélioré pour les lanceurs d'alerte, oui. Mais finalement, malheureusement, par le biais de ça, eh bien, sont mis en danger effectivement la protection des sources pour les journalistes. Et donc le travail des journalistes. Le problème des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui sont dans ces sociétés, qui sont capables de dire ce qui s'y passe.
Oui, bien sûr.
Bien, voilà.
Est-ce que ce ne serait pas une réaction justement à des, on va dire quand même des victoires d'un peu de consortium, entre guillemets, de médias de plusieurs pays qui avaient réussi à sortir les Panama Papers, des choses comme ça, et qui fait que, attention, il faut les calmer.
Voilà, absolument. Et puis ça rentre finalement aussi en droite ligne de la ligne de celle du gouvernement, enfin qui est quand même du côté de la défense des entreprises, quoi qu'il en coûte, quoi. Et donc il s'agit aussi de protéger les entreprises au motif qu'il s'agit de les protéger contre l'espionnage industriel, etc. Enfin, c'est quand on regarde le détail de la loi, enfin c'est telle qu'elle est aujourd'hui discutée, c'est vraiment une tarte de la crème. C'est ce qui est, parce qu'en fait toute situation, pas simplement ce type de situation de concurrence, à la limite pourquoi pas, de concurrence, d'espionnage industriel, bon pourquoi pas, mais c'est toute situation telle qu'elle est définie. La loi, elle est assez vague pour permettre à peu près toute interprétation et donc toute mise en cause du travail journalistique quel qu'il soit. Donc c'est bien le droit à l'information et à l'information des citoyens qui est visé, vraiment.
Parce que, et ça rejoint aussi les difficultés croissantes pour les associations par exemple, hein, comme Attaque, etc., oui. Là, qui sont attaqués aujourd'hui dès qu'il y a une manière. Enfin, heureusement, Attaque a eu gain de cause face à Apple, mais on voit bien que les grosses sociétés, les multinationales, les transnationales, ont tendance aujourd'hui à envoyer en justice toute personne ou association qui leur font de l'ombre. Hein. Elles ont les moyens, elles l'utilisent. Donc c'est une manière de bâillonner finalement l'expression.
Et concrètement pour les LuxLeaks, c'est le Deltour là, qu'est-ce qu'il avait fait? Simplement, c'était révéler des stratégies d'évasion fiscale qui sont mises en œuvre par ces grandes sociétés pour ne pas payer les impôts dans le pays où les salariés travaillent et pour minorer les impôts au maximum. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça ici, c'est du vol d'argent public, tout simplement. Bon, ces gens qui dénoncent ces choses-là, c'est pas des révolutionnaires avec des couteaux entre les dents. C'est des gens qui disent voilà, il y a du vol. Alors là, ça met évidemment un peu en porte-à-faux les médias dominants, puisque effectivement, ce genre d'information qui est rapportée, elle fait bien largement mieux le travail que ce qu'ils nous proposent depuis un certain nombre d'années.
On n'a pas pu aborder le problème des médias locaux, régionaux, parce que ça pourrait être intéressant aussi de voir un peu en région quels sont les... la même problématique, mais à l'échelle régionale.
Oui, alors bon, la situation à Lyon est un peu la même qu'on retrouve dans beaucoup de pays, de villes, pardon, de cette taille, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grand média dominant, traditionnel et très conservateur qui domine la place. Il n'y a pas beaucoup d'autres places pour d'autres médias, en tout cas de presse écrite, et les seuls
on a les équivalents locaux des médias des news magazines nationaux, quoi. Enfin, on a quelques news magazines locaux, mais qui sont un peu prou la même, sur le même modèle que les news magazines nationaux, quoi, voilà. Comme Lyon Mag ou Lyon Capital.
Et tout ce qui paraît intéressant, c'est souvent évidemment en dehors de ces cadres-là. C'est-à-dire qu'effectivement, là, j'ai beaucoup de plaisir, moi, à lire Rue 89 à Lyon, à lire les informations de Rébellion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. J'ai beaucoup de plaisir à écouter Radio Canu, Canu Info, qui va nous suivre dont nous sommes des fans, et pour cause. Voilà, mais aussi votre émission. Enfin voilà, il y a des alternatives, mais qui sont évidemment pas à la mesure en termes de moyens de ce qui peut être diffusé pour le grand public. Voilà.
Et on vous remercie.